Salut tout le monde, un nouvel épisode de notre série consacrée aux prospects de la Draft NBA 2023. En 20 minutes, on vous donne l'essentiel à savoir sur ces jeunes qui se présentent. Donc, on fait les portraits des 20 premiers, hein, selon notre propre classement, plus des Français évidemment. Pour cet épisode, on vous donne l'essentiel sur Jordan Hawkins. Jordan Hawkins, né le 29 avril 2002, donc il a déjà 21 ans, il jouait sa deuxième saison en NCAA, cette saison du côté de UConn, Connecticut, 1m96, 84 kg, 2 mètres d'envergure selon le très récent NBA Draft Combine. Pour en parler, Manu et Hugues.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous.
Pas mieux.
Très inclusif, très inclusif.
C'est vrai, c'est beau. Pour commencer, comme d'habitude, on va vous donner la biographie, les choses à savoir sur la personne qu'est Jordan Hawkins. Hugues, c'est toi qui t'en charge.
Yes, alors Jordan Hawkins, au-delà d'être mon chouchou, c'est un garçon qui a grandi dans le Maryland, qui a fait son lycée là-bas. Il a été nommé donc Maryland boisson sucrée de l'année, hein, je sais plus ce que c'est, Gatorade, Coca-Cola, enfin peu importe. Et il a été recruté assez tôt par les programmes, beaucoup de programmes de la Big East d'ailleurs, Marquette, Xavier, Seton Hall, UConn, etc. Donc il y avait cette région était prédestinée. C'est une recrue 4 étoiles, donc on est en dehors du top 20, top 25 globalement lycéen. C'est pas un joueur qui était énormément sur les radars. Il fait une première année à UConn, sorti de banc dans une équipe assez compétitive avec des mecs comme Tyrese Martin qui joue, qui est en two-way player en NBA du côté d'Atlanta par exemple, et RJ Cole qui je pense est venu en Europe. C'est un joueur qui avait un rôle de pyromane, et puis deuxième saison sophomore, il explose, c'est le leader offensif de son équipe sans parler de son jeu, et il va pouvoir aller jusqu'au bout, il est champion avec cette équipe des Huskies, une belle équipe compétitive avec plusieurs joueurs profil professionnel voire NBA, et sa cote elle explose, et du coup il s'annonce à la draft et il est attendu assez haut, notre ami Jordan.
Deuxième prénom, Jordan Dorrell Hawkins, et je vois qu'il a une cousine qui joue au basket aussi à LSU, qui est un gros programme pour les féminines.
Parce que les parents ne sont pas des gros sportifs, mais les parents voulaient des enfants joueurs professionnels de basket, notamment le papa, qui met la pression un petit peu, où le papa il dit moi quand il est né j'ai fait une photo avec un ballon de basket, je viens à tous ses matchs, je dis que mon fils il sera joueur de NBA à tout le monde depuis qu'il est né. Donc bon bah le papa va voir son rêve se réaliser et Le Jordan, il n'a pas des grandes épaules physiquement, par contre, mentalement, il a déjà bien bouffé.
Ouais, c'est ça. Et donc, oui, parce que LSU a gagné cette année au niveau de la NCAA féminine. Donc, Hawkins et sa cousine ont été tous les deux champions NCAA à deux jours d'intervalle. C'est quand même assez beau. On va parler du rôle qu'avait Jordan Hawkins. Tu en as touché un mot, Hugues, mais Manu, qu'est-ce qu'on lui demandait de faire en attaque cette année, et en défense aussi, quel rôle il avait dans cette équipe de UConn qui a donc été championne.
C'était l'option numéro 1 de UConn déjà au tir dans le scoring. C'est là où ça lui permet d'avoir un taux d'usage, moi, qui m'a impressionné, de 23%. Je pensais pas qu'il était aussi haut, mais c'est du fait qu'en fait qu'il ait plein de tirs. Il avait énormément de tirs du fait de sa qualité, de sa saison qui a été incroyable. Et du coup, plus du, je sais pas si on le dit maintenant, mais plus du off-screen catching.
Ouais,
shoot,
si, c'est beaucoup, le moment.
Beaucoup à 3 points, beaucoup de systèmes pour lui en sortie d'écran, un peu à la Cal Gale chez à Virginia, où voilà, tout était mis en place pour lui, pour l'attaque. Et ça, c'est ce qu'il l'a rendu, parce qu'il l'a mis dans 38% à 3 points cette année, ce qui est juste incroyable.
Alors, sur un volume énorme, ouais. 15, 3 points par 100 possessions, c'est énorme.
Ouais, c'est juste incroyable. Un peu plus en deçà, peut-être du fait du spacing et NCA, mais uniquement 32% à 2 points, enfin dans la zone mid-range, en fait. Alors que Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi pu aller au cercle. Moi, je le trouvais pas suffisamment, mais il a pu le faire avec un joli pourcentage de 55% de réussite près du cercle. Donc, c'est vraiment intéressant de l'avoir vu pouvoir scorer sur tous les niveaux, ces trois niveaux-là, tout au long de la saison, avec une vraie régularité à trois points.
Ouais. Et défensivement, ça défendait sur qui? Le meilleur joueur adverse, le deuxième meilleur? On le cachait un peu, comment ça se passait?
Non, c'est un défenseur honnête, moi j'ai trouvé, sur toute la saison, plus capable de défendre sur des gardes, de fait de sa taille et de son envergure qui est correcte, sans plus. Mais voilà, c'est défenseur honnête sans être le glue-guy que peut être un exemple ultimatum, un Kawhi ou un Paul George, tu vois, enfin, ce genre de gars-là. Ça va être un défenseur honnête à voir en l'adaptation NBA face à des joueurs beaucoup plus, toujours pareil, beaucoup plus rapides, beaucoup plus costauds. À voir comment il va savoir gérer ça. Et je pense qu'en NBA, par contre, ça va être plus, là je m'avance un peu, mais plus sur du meneur 1, voire que du meneur, voire du 1-2.
En défense, tu parles, hein?
Ouais, en défense, ouais.
Ouais, ok. Effectivement, il est léger. Hein. 84 kilos, c'est pas lourd. Quand t'arrives en NBA, après, on sait qu'ils prennent tous du poids, c'est pas forcément le... Mais il a pas une grosse structure osseuse ou musculaire. Il peut ajouter du poids, mais... Enfin, ça, c'est mon avis, mais quand on le regarde, on se dit pas c'est un gars qui va mettre 20 kilos de muscle là-dessus, quoi.
Ouais, la forme des épaules est pas...
C'est ça, ouais.
Pas dingue.
Pas très large d'épaule. Pourquoi on draft Jordan Hawkins? C'est le moment où j'ai oublié de dire où il était situé au moment où on parle. Hein, on enregistre le 25 mai, là, un mois avant la draft. 17e dans le Big Board. Donc Big Board, c'est vraiment les classements de valeur. Ce n'est pas en fonction de qui choisit à cette position-là. 17e chez The Athletic, 25e The Ringer, 13e chez ESPN. Vous l'avez à quelle position sur vos boards, messieurs? Hugues, dans le top 10, je crois?
Ouais, moi je l'ai dans mon troisième tiers. Bordure 4e tiers. On est sur le entre 8 et 12, quoi.
Ok, et Manu?
Je sais plus.
Tu sais plus. Bon, je crois qu'il était entre 10 et 15 de toute façon. Ouais. Il était peut-être 10e, remarque. Enfin, il est borderline top 10 chez nous. Il est un peu plus haut que chez les autres, même si ESPN l'a assez haut. Hugues, pourquoi on draft Jordan Hawkins quand on est un GM NBA? Pourquoi?
La première chose, c'est que tu sais que tu pourras le faire jouer. Il va t'apporter du spacing. C'est un gars qui va toujours être une menace sur le terrain. C'est pas simplement un tireur de catch and shoot. On a parlé du gros volume de 3 points, mais c'est pas qu'un mec qui va réceptionner, tirer. C'est un gars qui est tout le temps en mouvement, infatigable, qui court effectivement derrière les écrans, qui se déplace très très bien sur le latéral pour pouvoir derrière réaxer, se retourner. C'est un joueur qui va être une vraie menace, qui va créer du spacing, qui au-delà de ça, au-delà du tir, est un bon joueur de cut. Alors effectivement très léger, mais va apporter de la diversité, très bon dans le handoff, très bon dans la manipulation. Donc Jordan Hawkins, c'est réussir à donner de la variété à ton équipe assez facilement sans faire grand chose, juste avec des bons écrans. Et puis je me dis après si on voilà, mais pour moi il y a un vrai potentiel à développer dans la création individuelle. Pour l'instant, tu le drafts parce que tu sais que tu vas avoir du spacing.
La raison, en tout cas, numéro un, c'est...
Ouais, c'est son tir. C'est son tir et beaucoup de tirs. Vraiment beaucoup de tirs.
Mm. Manu, sur la gestuelle, le tir en soi, tu es d'accord avec Hugues? C'est vraiment le gros attrait de Jordan Hawkins et pourquoi on aime son tir, si c'est effectivement pour toi le gros attrait également.
Ouais, c'est difficile de passer... Bon, en fait, comme il a été dans une situation de beaucoup de shoots et qu'il les a mis, c'est difficile après cette saison-là de dire autre chose que son tir, en fait. Après, on peut creuser et dire, voilà, il y a toujours un peu plus. Moi, je pense que, moi, personnellement, son best case scénario, pour moi, c'est un Jamal Murray. J'imagine avoir cette évolution-là d'un gars qui va au fur et à mesure des années, apprendre à devenir un porteur numéro un et à gérer une équipe. C'est comme ça que pour moi, c'est
ça. C'est meilleur des meilleurs scénarios, quoi.
Ouais.
Il a le handle pour ça. Il a. Puis Murray est quand même costaud, ça va au cercle. Il a, il a les skills pour aller à ce niveau-là.
La grosse différence entre eux, c'est vraiment le physique où Murray était vraiment déjà assez carré à Kentucky. Et on voyait qu'il avait de la place pour ajouter, contrairement à un Jordan Hawkins. C'est vraiment ça la grosse différence. Mais en fait, moi, j'ai envie d'y croire. Parce que je me dis qu'un joueur avec ce potentiel-là au tir, faut le développer autrement. Faut qu'il devienne attractif pour son équipe autre que du tir. Parce que si je trave pas un top 10, si le gars va m'apporter que du tir. On peut dire ça, ou il faut faire comme Ray Allen l'était, un joueur ultra athlétique le Ray Allen de UConn et de Milwaukee est juste incroyable. Et c'est après, avec l'âge, un peu comme au foot où il a commencé à reculer et c'est devenu une gâchette ultime. Mais moi, j'aurais un peu ce truc là où, pour moi, il faut que ce soit l'inverse, qu'il arrive encore plus à se projeter du coup, vers le cercle. Et apprendre à... Parce qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est un handle moyen. C'est pas ouf. Mais moi, j'ai vu des flashs qui me disent que ce best case scénario-là, il est valable. Mais il faut, encore une fois, le fameux contexte.
Oui, on y viendra.
Ça peut être très compliqué.
Tu vois, je pense aussi qu'il y avait le fait qu'à UConn, c'est ce qu'on lui a demandé de faire cette année. Si vous regardez l'an dernier, parce que je l'avais déjà montré l'an dernier, moi. Si vous regardez l'an dernier où il est en sortie de banc et qu'il est un peu frustré par ce rôle, hein, d'ailleurs, d'avoir très peu de temps de jeu, de 10 minutes, 12 minutes, et à la fin, plus trop jouer, il fait plein de choses. Il fait plein de choses différentes. Regardez son Battle for Atlantis, qui est un tournoi de début de saison où il joue Michigan State et Auburn. Il y a beaucoup de créations individuelles, il y a beaucoup de jeux de pull-up, il y a beaucoup de projection vers le panier avec un double pas où il arrive à vraiment traverser toute la ligne, de la ligne de ses francs jusqu'au cercle en un double pas très long. Il a vraiment une très belle allonge, malgré une envergure pas énorme. Et je pense vraiment que le contexte UConn l'a excellemment mis en avant sur le tir, mais a caché d'autres choses de son jeu, parce que on disait assez fin, il est à 32% de free throw rate sur un
ce
mec
qui est pas mal, hein.
Ce qui est assez élevé pour un gars qui prend que 20% de ses tirs près du cercle. Ouais. Alors il a le 4 points de Jamal Crawford, le tir à 3 points et la faute, il en fait un par match. Enfin vraiment, il est très très bon là-dessus pour faire piéger la défense, mais il provoque aussi pas mal de lancers francs près du panier, il a une vraie bonne projection. Donc je rejoins aussi le rôle. Alors je sais pas si c'est un créateur collectif en tant que première option, par contre scoreur vraiment important dans plusieurs situations, dans un rôle. Ouais, alors je dis pas que c'est Ray Allen, mais dans ce rôle-là que Manu parle, ou bien dans quelque chose que nous a montré, bah effectivement peut-être un Toy Alexander en développement cette année, ou un Michael Bridges en développement à Brooklyn en fin de saison. Voilà, peut-être un peu plus terre à terre, mais j'y crois vraiment fortement.
Michael Bridges a pu développer ça parce qu'il a eu du temps de jeu. Il a eu du temps de jeu parce que c'est un excellent défenseur au-delà de maintenant ça, son niveau offensif. Qu'en est-il de Jordan Hawkins?
Le problème, c'est que Jordan Hawkins, il est tout maigre et que UConn développe assez mal le physique sur les premières années. C'est pas une école.
Il a déjà 21 ans, donc il est pas, c'est pas un premier. Enfin, il est assez vieux entre guillemets pour un joueur qu'on projette top 10. Ouais.
C'est un vieux sophomore, mais tu vois, à l'époque, même école, James Bouknight qui avait fait 2 ans aussi, n'avait pas pris énormément de masse. Alors James Bouknight n'a pas un gros début de carrière.
Non.
NBA, bon, mais.
Pire contexte, mais.
Ouais. Ouais, clairement, mais la prise de masse est pas optimale quand tu vois un mec dans l'équipe comme André Jackson qui arrive et qui est déjà une belle bête physique à son entrée en NCAA.
Un coéquipier, aujourd'hui, André Jackson.
Ouais, c'est ça, qui lui, pour le coup, était le stopper défensif, qui était l'homme à tout faire. André Jackson qui arrive est une belle bête déjà physique, et il sort de UConn, ou il sortira de UConn, et il a pas tant évolué que ça, donc je sais pas si la fac axe vraiment là-dessus. En tout cas, Dan Orley met pas trop l'accent dessus. Mais pour le moment, NBA, il défend personne en première année parce que trop maigre. À terme, je suis assez d'accord avec Manu pour stopper sur les postes 1-2 parce que très vif.
Il a une bonne latéralité.
Ouais, il bouge bien, bon changement d'appui, agressif, très agressif, des mains très actives, une mentalité aussi de tueur, il aime bien ça, il aime bien venir chipper le ballon, venir te mettre une presse, venir te coller, il donne des bons angles, il sait bien orienter main droite, main gauche en fonction du scouting report, assez sérieux, il fait pas énormément de fautes, donc j'y crois avec un développement physique, mais encore une fois, le what if, c'est est-ce que tu peux passer la barre des 95 kilos d'ici 3 ans, quoi.
Et oui, est-ce qu'il aura assez d'efficacité offensive selon toi, Manu, pour surmonter au début son inefficacité défensive. On le répète pour ceux qui ne nous écoutent pas depuis des années, vous êtes tout pardonné, mais les rookies NBA qui sont positifs pour leur équipe en défense, c'est genre, 3 ou 4 sur 60 par année, quoi. Très, très rare. C'est vraiment extrêmement rare, sauf dans les classes de draft de ma boule où il y a des Evan Mobley et compagnie. Mais sinon,
là, tu vois, en playoff, il reste un rookie qui a un vrai rôle. Christian Brown.
Ouais. Bon, après, là, il reste que deux équipes. Donc...
non, mais même avant.
Oui, avant. Oui,
genre, par exemple, pour les 4, là, en conf, il n'y a vraiment que lui qui joue. Même un peu élargir sur les autres tours. C'est vraiment le seul qui a eu un vrai rôle tout au long des playoffs.
Ouais, tout à fait.
Et c'est aussi grâce à sa défense, notamment.
Tout à fait. Du coup, qu'est-ce que tu en penses, Manu, sur le côté est-ce qu'il aura, tu vois, est-ce qu'il a la diversité? Parce que, ok, il va falloir qu'il développe son offense, mais en attendant, sa défense sera pas extraordinaire. Est-ce que juste avec ce qu'il sait faire maintenant, en fait, est-ce qu'il aura pour toi du temps de jeu dès l'année prochaine?
Moi, j'ai du mal à le projeter comme ça, honnêtement. Même s'il est intense, il est voilà, il bouge super bien et tout, il a envie. Mais j'ai du mal, c'est vraiment principalement physiquement où je le vois. S'il garde son corps, ça peut très bien changer en quelques mois. Les staff NBA savent travailler. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à le projeter comme ça. Je pense qu'il va faire pas mal de tours J-League et qu'il apprenne à taffer, quoi. Parce que je pense qu'il pourra, versus des joueurs type physiquement LaMelo Ball, tu vois, des joueurs comme ça physiquement, qui, en termes de kilos, ça doit être plus ou moins la même chose.
Costaud LaMelo, hein, mais oui. Ouais.
Et sur le défend assez longiligne, pas trop pépé, tu vois. Ouais. Je le vois plus défendre sur des joueurs comme ça que sur, par exemple, un gars comme Westbrook ou même un Jamal Murray qui sont beaucoup plus étoffés, beaucoup plus épais et lourds. Mmh. Où là, je pense qu'il aura du mal ou fera qu'il domine tout de suite par son intensité et sa latéralité. Et je pense que le spacing NBA va pas l'aider.
Hugues, toi, qu'est-ce que tu penses de son rôle probable en année 1? Quel environnement tu imagines idéal pour son développement? En citant ou pas une équipe, on n'est pas obligé.
Pour moi, son rôle, ça va être sortie de banc, donner du spacing sur les postes. Il va jouer dans les relais des extérieurs, des arrières ailiers de 3, sur 10-15 minutes. Et j'espère une équipe qui va avoir du mouvement de jeu loin du ballon. Je préférerais quelque chose comme ça, pas une équipe qui est trop bien centrée. Alors après, j'ai regardé un petit peu là la loterie. Il y a beaucoup d'équipes qui ont des très très bons extérieurs. Je vois Dallas en 10, alors pour le coup qui est très héliocentré.
Ouais. Mais bon, il va se régaler de catch and shoot bien propre, quoi.
C'est ça. Et puis il y a quand même quelques écrans loin du ballon, etc. Donc ça, j'aime bien. Je faut pas lui donner de responsabilité balle en main, faut le faire sortir du banc. Une équipe un peu compétitive, je pense que ça peut lui réussir. Parce que on a vu une première année où lorsqu'il sort du banc et qu'il joue pas et que on le frustre, il prend des mauvais tirs. Il a tendance à vouloir se chauffer, c'est quand même un gros caractère, hein. Je pense que l'éducation a dû jouer là-dedans. Tu dois être bon, tu dois être un peu une star, un peu. Tu vois, je voyais l'interview d'Evan Fournier avec son papa. Ça ressemble un peu à ça, sans que ce soit toxique. Il y a une vraie présence, quoi. T'as pas le droit de perdre, tu dois être compétitif et tout ça. Et donc, voilà, faut. Si tu le sors du banc, va falloir en loterie, va falloir pouvoir lui montrer pourquoi. Et donc, j'aimerais bien une équipe un minimum compétitif.
Manu, sur les attitudes, le mental, est-ce que tu as relevé quelque chose en particulier? Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est... je sais pas. Qu'est-ce que tu as pu voir?
Non, c'est un gars, moi je trouve vraiment concentré dans ce qu'il fait, sérieusement. Après, il faut le voir en vrai, il faut le voir à l'entraînement, il faut le voir dans d'autres choses, mais sur ce qu'on a en vidéo, moi je le trouve assez focus dans ce qu'il fait. Pas trop de perte de, pas de perte de mémoire, de perte de vision, tu vois, ou de perte de concentration.
Ouais, ok.
C'est vraiment un gars qui est assez concentré dans tout ce qu'il fait. Que ce soit en attaque ou en défense. L'attitude, franchement, l'attitude comme ça globale de ce qu'on peut voir à notre
Ouais.
petite échelle, c'est plutôt correct.
Hugues, tu me mets trivia alerte
Ouais.
dans notre chat, dis-moi.
Pour
C'est une petite
l'attitude.
question.
Non, non, c'est une trivia, c'est voilà, pour l'attitude, c'est il fait une demi-finale de tournoi de March Madness sous comment dire infection alimentaire. Il a bouffé un truc pas frais, du calamar, hein, il a dit, et il nous fait le calamari game. Deuxième mi-temps, il prend feu, il porte l'équipe et tout, alors que ben, il a hyper mal au bide et qu'il participe pas à l'entraînement. Et il reste avec des pourcentages de ouf au tir, donc dans le côté focus, compétitif, je joue peu importe, etc. Je trouve que c'est voilà, c'est un petit fun fact, mais qui a son importance, quoi.
Est-ce que vous y croyez? C'est la question qui vaut des points, messieurs. Je m'amuse
Oui.
avec... Oui.
Oui. Depuis le début, moi, je suis un amoureux de Jordan Hawkins, j'y crois fort.
Manu.
Moi, je suis mitigé.
Selon le contexte, tu penses qu'il est... Selon le contexte, ou t'es mitigé pourquoi?
J'ai mitigé sur le contexte et j'ai aussi même j'ai vraiment peur qu'il n'arrive pas à développer autre chose que son tir. Et du coup, il soit et qu'il devienne pas. Pour moi, il ne deviendra pas un shooter élite. Il n'a pas cette corpulence. Il n'a pas le physique pour. Il est trop petit. Et je trouve, j'ai peur qu'il devienne très très vite limité en fait et qu'on se retrouve avec un James Bouknight bis.
C'était notre présentation de Jordan Hawkins, le joueur de UConn. Vous pouvez aller voir son scouting report sur envergure.co. Vous pouvez aller consulter tous nos autres portraits, les essentiels sur les autres joueurs de cette draft NBA 2023, avec évidemment toute une série de podcasts consacrés aussi à Victor Wembanyama qui devrait partir numéro 1. Salut tout le monde!